8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Xavier Nassif, directeur de l'Institut Pasteur de Lille.
Bienvenue à vous et bonjour professeur Xavier Nassif.
Bonjour madame Mabrouk et merci de votre invitation.
Voilà, merci d'être avec nous. Nous allons, professeur, largement évoquer le traitement sur lequel l'Institut Pasteur de Lille travaille. Mais tout d'abord, je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe autour du vaccin AstraZeneca suspendu par des pays scandinaves du fait de rares cas de thrombose. La France, professeur, maintient son utilisation. Est-ce prudent ?
Écoutez, moi je pense que le ministre de la Santé a pris la bonne décision. Ce vaccin AstraZeneca, premièrement, est un vaccin qui marche. Est un vaccin qui peut être fait par les médecins traitants parce qu'il ne nécessite pas de mécanisme de conservation particulier. Donc c'est un vaccin, comme il marche et qu'il est facile à faire, qu'il faut faire. La question est de savoir, c'est quelques cas de maladies thromboemboliques qui ont eu lieu. Si j'ai bien compris, on parle d'une vingtaine de cas, alors qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui ont été vaccinées en Europe avec ce vaccin. La maladie thromboembolique est une maladie fréquente. L'embolie pulmonaire n'est pas du tout une maladie rare. Donc, est-ce que sur 2 mois, parmi 5 millions de personnes qui n'auraient pas été vaccinées, nous n'aurions pas facilement trouvé 20 cas d'embolie pulmonaire, voire même plus? Donc, je pense que rattacher un événement qui peut être un épiphénomène lié à toute autre chose à l'injection d'un vaccin me paraît extrêmement compliqué et préjudiciable. Il ne faudrait surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand on sait que le retour à la vie d'avant, si on veut que nos cafés rouvrent et que nous retournions au restaurant, il va falloir qu'on se vaccine. Donc ça me paraîtrait délétère de proscrire ce vaccin pour ces raisons.
Vous écoutez, professeur, on comprend que le rapport bénéfice-risque est assez évident, mais tout cela ne va pas favoriser la réputation de ce vaccin AstraZeneca. Soyons concrets, professeur Nassif, si quelqu'un de votre entourage vous demande conseil par rapport à ce vaccin, parce qu'il doit se vacciner là, dans quelques jours, peut-être nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, que lui diriez-vous ?
D'aller se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca.
Sans aucune hésitation.
Sans aucune hésitation. Voilà.
Et le principe de précaution ne commande-t-il pas, professeur Nassif, de faire une pause pour avoir simplement du recul et un peu plus d'études et d'enquêtes ?
On a déjà 2 mois de recul, je veux dire. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus ? Je veux dire, on a rassemblé une vingtaine de cas, mais si on cherchait, peut-être qu'on trouverait que finalement, il y a bien eu 20 infarctus du myocarde dans ces 5 millions de personnes depuis 2 mois. On pourrait peut-être l'associer. Enfin, ça me paraîtrait déraisonnable dans l'état actuel des choses.
Alors, Sanofi annonce ce matin le lancement, professeur Nassif, des premiers essais sur l'homme de son second projet de vaccin, le premier étant toujours en phase de test. Ce second projet qui est basé sur l'ARN messager, c'est un espoir ?
Je suis ravi que Sanofi se lance dans l'ARN messager, qui est un vaccin qui marche très bien. Je veux dire, on a découvert avec cette pandémie l'intérêt de faire des vaccins ARN messager. Donc je comprends que Sanofi ait envie de s'y mettre, alors qu'elle a peut-être un savoir-faire déjà pour faire des vaccins protéiques très importants. Ça, nous le savons, mais je trouve que c'est normal et ça me paraît être ce qui pourrait augmenter notre capacité vaccinale dans ce domaine.
Professeur Nassif, c'est bien la technologie de l'ARN messager qui semble être finalement la plus efficace. Et évidemment, nous avons en tête, c'est une blessure d'orgueil. Et là, je parle de l'Institut Pasteur de manière générale qui n'a pas misé sur cette technologie-là. Pourquoi,
l'Institut Pasteur de Paris avait misé sur un virus qu'ils avaient déjà utilisé pour faire des vaccins, qui est un virus de la rougeole atténuée et qui marchait. Donc c'était tout à fait logique. Ils avaient cette technologie en main, ce savoir-faire, de le tester dans ce cadre-là. Il s'avère que dans le cas spécifique du Covid, cette technologie n'a pas apporté les résultats qu'on espérait. Mais c'est de la recherche. Et si à chaque fois qu'on commence un projet, on était sûr de gagner, je veux dire, ce serait trop beau.
Non, professeur, bien sûr, les chercheurs français sont bons, mais la recherche française est-ce qu'elle ne doit pas s'interroger davantage, parce que finalement, c'est ce qu'on va retenir, c'est que la France n'a pas son vaccin pour le moment.
Moi, je vous trouve très dur avec les chercheurs français. Je pense que les chercheurs français sont... Il y a d'excellents chercheurs,
bien
et d'ailleurs,
sûr.
Il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Du reste, la personne qui dirige Moderna, qui a mis au point le vaccin ARN messager, est un Français. je pense que dans le cas présent de l'Institut Pasteur, je comprends qu'ils aient fait ça à Paris. Je veux dire, ils avaient une technologie en main, un savoir-faire en main, ils ont voulu l'exploiter. Dans ce cas présent, ça marche pas. On a découvert l'intérêt de l'ARN messager à l'occasion de cette pandémie.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a un an, est-ce que quelqu'un aurait parié que ça allait marcher comme ça ?
Non, mais je vous disais, par rapport à la recherche, professeur, c'est-à-dire, nos chercheurs sont très bons, mais ils sont à l'étranger. C'était ça, c'était...
Pas tous, il y en a beaucoup en France.
Et vous en faites pas. En tout cas, il y en a beaucoup, justement, à l'Institut Pasteur de Lille, et on va en parler. Pourquoi ? Parce que sur les traitements, professeur, d'abord, pourquoi il est si peu question dans la communication de manière générale, y compris de l'exécutif, des médicaments, des traitements, alors que ça fait partie de la stratégie de sortie de crise également ?
Ça fait, je veux dire, on apprend à nos étudiants en médecine que pour traiter une maladie, il faut un traitement prophylactique et un traitement curatif. Dans le cas présent, le traitement prophylactique, c'est le vaccin, et le traitement curatif, c'est des antiviraux, à côté des traitements symptomatiques pour diminuer les symptômes, comme les corticoïdes, par exemple. Donc, c'est sûr que un traitement antiviral serait le plus que bienvenu, et si, il y a un an, nous avions eu un traitement antiviral disponible, nous n'en serions pas là actuellement. C'est-à-dire, on aurait la pandémie...
Il n'y aurait pas eu de confinement successif.
On aurait sans doute pu éviter un confinement, etc. Mais malheureusement, nous n'avions pas d'antiviraux il y a un an contre le SARS-CoV-2 qui est responsable de la Covid.
Mais vous y travaillez à l'Institut Pasteur de Lille, professeur depuis plus d'un an, sur une fameuse molécule dite repositionnée, prometteuse. En quoi cela consiste ?
Eh bien, écoutez, c'est très simple. Il y avait une ressource sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille qui appartient toujours à l'Université de Lille et qui a été gérée par une start-up, Aptéus. Et cette ressource comporte 2000 médicaments, c'est-à-dire des médicaments qui étaient donnés pour d'autres indications. Ça pouvait être l'hypertension, ça pouvait être exactement toutes autres indications. Et à côté de cette ressource, il y a une des seules unités en France, dirigée par Jean Dubuisson, qui travaillait sur les coronavirus, la recherche fondamentale sur les coronavirus. Donc en fait, il y avait une mayonnaise à faire prendre, et ce qui s'est passé, c'est que ces chercheurs biologistes, qui sont des chercheurs CNRS et INSERM, se sont mis à travailler avec les chimistes qui possédaient cette chimiothèque pour essayer de voir s'il n'y avait pas dans cette chimiothèque une molécule capable d'inhiber la réplication du virus.
Et apparemment, on l'a trouvé. C'est un médicament, un antibiotique, c'est bien ça, professeur
Alors, c'est
Nassif.
Un antibiotique qui était donné pour les rhinopharyngites, c'est-à-dire pour les maladies, les angines, en gros.
Et, que l'on connaît, hein, vous pouvez le dire.
C'est l'octophène, c'est du...
Voilà.
Clofoctol,
exactement.
Qui a été retiré du marché en France dans les années 2005, parce que comme il était prescrit pour les rhinopharyngites, qui sont des maladies qui guérissent toutes seules, à l'époque où la Sécurité sociale a revu l'intérêt de certains médicaments, a dit, bah, comme ça guérit tout seul, c'est peut-être pas absolument d'intérêt médical primordial, donc je veux dire, le médicament a été de moins
Mais
en moins prescrit.
Il peut être prometteur, professeur Nassif, et dans ce cas-là, il serait administré au premier symptôme de la maladie, c'est-à-dire au tout début, pour
Très
réduire...
Tôt,
anesthésie à la charge virale.
Voilà, les antiviraux doivent être prescrits très tôt. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait de le prendre quasiment quand vous avez le contage. C'est-à-dire quand vous êtes en contact d'un malade, le plus tôt possible, si on veut que ça marche. Voilà.
Mais la question, professeur Nassif, c'est êtes-vous soutenu suffisamment ? Alors, pas financièrement, oui, puisque vous avez des dons, des subventions, à la fois de la région, à la fois des dons privés également.
Voilà, c'est ça. Donc, lorsqu'on a... trouver ce médicament, on a cherché le moyen de démontrer que ça pouvait marcher. Pour ça, il faut faire des essais cliniques. C'est absolument impératif. Donc, on a fait un appel aux dons et nous avons eu beaucoup de dons. Petits dons, gros dons, très gros dons.
Et il n'y a pas de petits dons, tout est important.
Il n'y a pas de petits dons, tous les dons nous engagent absolument.
Et les gros, c'est LVMH notamment.
C'est ça qui nous a fait un très gros don pour permettre de réaliser cet essai clinique, avec une aide publique, l'aide de la région. Et nous espérons pouvoir commencer les essais cliniques d'ici fin avril, début mai. Voilà, on a d'abord déposé un dossier, on travaille actuellement avec les autorités réglementaires pour la conception de cet essai clinique.
Mais est-ce que ça va assez vite, professeur ? Parce que, pour tout dire, vous avez été contraint de freiner, car les essais, dans vos essais, vous aviez proposé un essai extrêmement ambitieux, et qu'est-ce qui s'est passé ? Le comité qui pilote les essais thérapeutiques, le CAPNEC, vous a dit... de limiter un peu vos ambitions. Pourquoi ?
C'est-à-dire que, si vous voulez, les équipes ont déposé un dossier, comme vous le dites, très ambitieux, qui impliquait un grand nombre de la mise sous traitement d'un grand nombre de patients. Ils nous ont dit que le dossier était très bien. Je veux dire qu'il y avait des espoirs dans ce traitement. Ils n'ont pas du tout été négatifs. Mais ils nous nous ont demandé de commencer par un essai un peu plus restreint, de façon à ne pas imposer à beaucoup trop de patients d'emblée de recevoir un traitement dont on ne sait pas toujours s'il marche cliniquement.
Mais professeur, nous sommes en guerre contre cette épidémie. Et à la guerre, est-ce qu'on demande aux soldats de lever le pied ?
Vous parliez du principe de précaution tout à l'heure. Donc je pense que les autorités réglementaires sont dans leur rôle et nous étions dans la nôtre.
Entre la précaution et le précautionnisme, il y a des nuances.
L'essai clinique va avoir lieu, c'est juste une question de quelques semaines.
C'est important parce qu'il peut y avoir un espoir sur cette molécule. Et puis professeur, pour les années à venir, parce qu'on est le nez sur le guidon malheureusement avec cette épidémie, mais on ne peut pas subir chaque épidémie. Est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs et comment selon
vous ? Alors écoutez, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en d'autres termes, c'est le troisième coronavirus qui en moins de 20 ans nous pose un problème. On a eu le SARS-1, on a eu le MERS, et là on a le SARS-2. Donc je pense que ce qu'il faudrait de nos jours, c'est quand même se dire que les coronavirus ont une propension à passer de la chauve-souris à l'homme, qui est quand même relativement importante, et personne ne peut exclure qu'on n'aura pas une autre pandémie dans les années à venir. Donc pour ça, je pense que ce qu'il faudrait, c'est anticiper. Et là, c'est assez facile. Il faudrait faire un anti-pan-coronavirus. C'est-à-dire déjà travailler sur une molécule antivirale qui permettrait de prévenir l'ensemble des infections à coronavirus. Comme ça, si une autre pandémie à coronavirus survenait...
C'est-à-dire une molécule universelle
contre tous les coronavirus, contre tous les virus, mais contre tous les virus de cette famille. Et c'est assez faisable parce qu'ils ont des molécules en commun, des cibles en commun. Donc on doit pouvoir envisager de faire une molécule qui inhiberait la plupart des coronavirus.
Avec nos très bons chercheurs français.
Professeur,
est-ce que vous reviendrez pour annoncer, on l'espère, que votre molécule, ce médicament est prêt ?
Et c'est tout le mal que je nous souhaite.
Très bien. Alors je vous dis rendez-vous à bientôt, on l'espère.
Merci beaucoup, madame.
À vous de même, professeur Xavier Nassif. Bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.